De pouvoir dire à chacun de vous paix et bénédiction dans le nom de Jésus. Sachant que j'allais me trouver ce matin devant vous, j'ai préparé une méditation sur le thème de la fête de Soukhot pour prolonger l'enseignement que Luc a apporté il y a quelques semaines. Donc je me suis préparé à ça et puis il y a quelques jours, juste avant d'arriver à Guebwiller, eh bien, le Seigneur m'a montré que, à l'évidence, il y avait autre chose à apporter ce matin à l'église de Josué. Voilà. Alors, mais c'est pas contraire du tout, ça part pas dans un autre sens, mais c'est autre chose. Et maintenant, je me trouve devant vous avec en moi une conviction tout à fait tranquille, sereine, que je me trouve là, dépositaire d'un appel, d'une requête, d'une invitation que le Seigneur adresse à cette église Josué. Alors ce n'est pas un ordre que le Seigneur donne à cette église comme s'il parlait du haut de la montagne, que sa voix se fasse entendre dans le tonnerre, les éclairs, le feu. Un ordre qui serait absolument contraignant, comme lorsque Dieu dit à un prophète ou à Moïse, « Lève-toi et va dire au peuple. » Non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment une requête. Un peu comme lorsque le Seigneur se révèle à Ésaïe dans le temple de Jérusalem, et Ésaïe voit le Dieu trois fois saint. Dieu parle à Ésaïe, il lui dit « Tu ?» Et à un moment donné, Dieu parle d'une autre manière, il tourne la phrase autrement, le Seigneur. Il veut appeler Ésaïe, il ne dit pas « Ésaïe, je t'appelle », il dit non. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors évidemment, Ésaïe, vous pensez bien, il s'est senti visé, mais le Seigneur a laissé devant lui le champ libre ouvert pour que Ésaïe réponde selon son cœur. Et c'est ce que fait ce matin le Seigneur, à travers de ce que je vais essayer d'apporter. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de contraignant, c'est vraiment une requête. Quelque chose que le Seigneur vous adresse avec tendresse, avec délicatesse. Pourquoi ? Justement pour que nous puissions répondre vraiment avec notre cœur, sans contrainte. Et puis aussi parce que ce que je vais expliquer ce matin, c'est pas quelque chose pour vous de complètement nouveau. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. C'est une chose pour laquelle déjà le Seigneur, depuis longtemps, a préparé les cœurs et les pensées de beaucoup. Alors, ce que je vais partager, ça ne va pas être une porte que je vais enfoncer, que je vais ouvrir, parce que la porte, je pense, elle est en train de s'ouvrir, mais le message de ce matin, ça va être simplement comme ces petits bouts de papier pliés en quatre qui servent de cale, qu'on glisse sous la porte pour que la porte étant ouverte, elle ne se referme pas et pour que la grâce du Seigneur puisse passer par là, s'étendre, se poser vraiment sur cette église de Josué et par là aux nations, puisqu'on a parlé des nations. Alors, pour rentrer quand même dans le vif du sujet, j'ai besoin de faire un petit flashback par rapport à ce que j'ai apporté des fois précédentes. Je voudrais rappeler quelle était la situation de l'Église à la fin du premier siècle de notre ère. Et ce qu'on appelle un peu la primitive Église dans ses commencements. Alors j'ai besoin d'amis qui vont m'aider. Est-ce que je pourrais appeler ces deux messieurs à venir ici? Venez là. Vous allez vous asseoir. Voilà. Alors, voilà. Toi, tu vas t'asseoir ici. Toi, tu t'assieds ici. J'en ai besoin d'un troisième, là, un garçon. Est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? Oui. Viens me rendre service. Voilà, c'est très bien. Alors, vous deux, vous montez sur votre chaise. Côte à côte. Vous vous donnez la main. Voilà, ces deux garçons représentent dans le premier temps de l'Église le peuple d'Israël. Dans le peuple d'Israël, le message de l'Évangile forcément a été annoncé, ça commençait par là, et il y a une partie du peuple d'Israël, celle-ci, qui représente les Juifs croyant en Jésus. Ok ? Voilà. Et, bien sûr, il y a une partie du peuple d'Israël qui n'a pas vraiment reçu ce message, qui reste réfractaire à Jésus, ça sera cette partie ici. Ce n'est pas quelque chose à faire, hein ? Voilà, c'est qu'une scénette, hein ? Ne te prends pas au jeu, hein ? Voilà, voilà. Mais toi, tu représentes la partie du peuple juif qui reste fermée à Jésus. On va dire le courant issu des pharisiens, ce courant qui existe encore aujourd'hui et que nous retrouvons assez massivement sous la forme de ce que nous appelons maintenant, à notre époque, le judaïsme rabbinique. Voilà. Et donc cette partie ici. Maintenant, toi, tu descends un instant. Tu descends. Voilà, tu continues assis de lui donner la main. Toi, tu montes sur ta chaise. Tu lui donnes la main. Et voilà, maintenant, ce tandem qui est là représente dans les premiers temps de l'Église, l'Église telle que le Seigneur la veut. C'est Paul qui nous le montre dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. Une Église composée de la réalité juive en Jésus, en Yeshua, à laquelle s'est adjointe ce qu'on pourrait appeler la gentilité chrétienne, c'est-à-dire ce garçon représente les croyants en Jésus venus de tout peuple, de toute tribu, de toute race, de toute langue, de toute nation. Tu es tout ça à la fois. Bien. Mais vous allez même faire plus que de vous donner la main, vous vous tenez. Tiens, regarde. Tu mets ta main sur l'ange comme ça, et toi tu passes ton bras. Non. Regardez bien. Voilà, toi tu gardes ta main, et toi tu passes le bras à l'intérieur. Ça veut dire que lui, il est, selon le langage de Paul, une branche prise à un quelconque olivier de l'humanité sans Dieu, qui maintenant est greffé sur ce que Paul appelle l'olivier cultivé d'Israël. Et puis là à côté, on a une branche que Paul appelle la branche mise momentanément à l'écart. D'accord ? Voilà. Alors, ce qui s'est passé, eh bien, remonte sur ta chaise, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en l'an 134 et quelques, il y a eu une rupture, je reviens à un message que j'avais apporté rapidement, il y a eu une rupture qui s'est consommée au sein même du peuple d'Israël entre les Juifs réfractaires à Jésus et les Juifs croyants en Jésus. Alors, je ne vais pas revenir sur cette rupture, mais voilà, il y a une rupture qui s'est consommée ici. Alors, saute, si tu arrives à sauter, tu es sportif. Voilà. Donc, regarde, toi, viens, lève-toi, viens. Tu viens ici. Voilà. Est-ce que vous voyez cette rupture ? Bien. Et puis, voilà qu'au fil du temps, on assiste dans l'histoire à une deuxième rupture au sein même de l'Église, de ce que Paul appelle l'homme nouveau, constitué en Jésus du juif et du non-juif, ou ce qu'on pourrait appeler une fratrie, le frère aîné et le frère cadet. Et bien voilà que par un péché d'orgueil, la partie non-juive de l'Église arrive à éjecter hors de la fratrie le frère cadet, Alors, coup de gomme, on efface, je reprends. Le frère cadet fait un énorme péché d'orgueil. Alors, prends un air un peu orgueilleux, là. C'est difficile, avec la bonne bouille qu'il a, c'est difficile, mais prends un air hautain, orgueilleux. Tu es fier. Voilà. Tu es fier vis-à-vis de l'autre. Voilà. Et tu fais un énorme péché d'orgueil, tant et si bien que tu te démarques, saute, tu viens ici, tu montes sur la chaise, et tu te crois comme l'Église à toi tout seul, le nouvel Israël. Et toi, mon pauvre, tu ne sais plus où aller. Parce que là, tu n'es pas bien accepté. Si tu dis que tu crois en Jésus, tu n'es pas bien accepté. Si tu viens ici en disant que tu es juif, tu n'es pas bien accepté. Alors tu n'as qu'une solution, tu descends de ta chaise et tu t'assieds même par terre. Oui, par terre. Pratiquement, il disparaît. Pas complètement, mais il disparaît. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que le frère cadet, qui attrape maintenant, au mauvais sens du terme, une mentalité de fils unique, orgueilleux, et c'est pas le cas de tous les fils uniques, heureusement, mais voilà, tu t'en crois, tu prends une mentalité de propriétaire, tu es orgueilleux, et voilà que cette gentilité chrétienne commence à regarder de travers le monde juif dans son ensemble. Non seulement les juifs réfractaires à Jésus, mais aussi les juifs croyant en Jésus. Et ça, on l'a vu, on l'a expliqué, ça a donné naissance à ce qu'on appelait l'antisémitisme chrétien, l'antijudaïsme, bien avant la Shoah, pendant des siècles, et nos esprits en ont été fortement marqués. Alors, ça va là, les jeunes là? Bon. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, alléluia, Dieu merci, c'est que le Saint-Esprit, depuis un certain temps, et surtout depuis la Shoah, visite le cœur des chrétiens non-juifs. Et pour beaucoup de ces chrétiens non-juifs, eh bien, il y a un travail du Saint-Esprit qui se fait pour les amener à une repentance. Pas tous, parce qu'après tout, le monde n'a pas forcément besoin de repentance, mais beaucoup. Pourquoi une repentance au niveau personnel? On découvre qu'on a eu des pensées d'antijudaïsme, d'antisémitisme, qui viennent de la méchante, de la vilaine manière héritée des générations d'avant. Et puis aussi une repentance par solidarité, parce qu'on fait partie d'une instance, d'une organisation, d'une communauté qui, par le passé, a vraiment maltraité, méprisé le peuple juif, ce qui est un péché. Voilà, alors donc, il y a tout ce travail de repentance. Et repentance par solidarité, un peu à la manière de Daniel dans la Bible, ou de Néhémie, et nous et nos pères, nous avons péché. Eh bien, beaucoup de chrétiens se solidarisent de cette histoire-là, douloureuse, et demandent pardon à Dieu et au peuple juif pour tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Ces démarches de repentance sont très, très importantes. C'est un peu comme vous êtes au bord d'une rivière et vous voyez passer sur la rivière un tas de détritus, de cochonneries emportées par des inondations, des branchages, des choses qui flottent. Et la repentance est comme une espèce de grille que l'on dresse en travers de la rivière et qui va bloquer au niveau où nous sommes toutes ces cochonneries pour que le cours de la rivière en aval n'en soit plus infecté. C'est ça que produit la repentance. Alors, peut-être parmi vous, certains ont déjà vécu cette repentance. Peut-être d'autres non, et peut-être d'autres diront. Alors, parmi ceux qui n'ont pas vécu ce temps de repentance, il y a deux cas de figure. Soit tout simplement, n'a pas besoin de repentance. Parce que, de toute sa vie, on n'a jamais eu ces pensées-là, ces pensées mauvaises vis-à-vis du peuple juif. C'est tout à fait possible. Mais, peut-être aussi, on ne s'est pas repenti simplement parce qu'on a résisté à l'action du Saint-Esprit. Voilà. Enfin, toujours est-il que dans les temps actuels, il y a cette repentance qui monte de nos églises. Et alors, cette repentance, elle va dans deux directions. Bien sûr, elle monte vers Dieu, mais la repentance, elle est un peu comme la machine à remonter le temps qu'avait inventé, imaginé Jules Verne. La repentance, eh bien, elle remonte en quelque sorte spirituellement le cours de l'histoire pour aller jusqu'au moment où la blessure a été faite. Et là, il faut que nous prenions conscience que notre repentance vis-à-vis du peuple juif, à un moment donné, se ramifie comme un Y. Pourquoi? Parce que la repentance, en allant vers l'ensemble du peuple juif, tiens, toi, descends de ta chaise. Toi, remonte-toi sur ta chaise. Voilà. Notre mouvement de repentance, en allant vers le peuple juif, monte-toi aussi. Voilà. Va, à un moment donné, va se diversifier. Il y a repentance en direction des juifs réfractaires à Jésus, parce qu'on les a malmenés. C'est pas parce qu'ils sont réfractaires à Jésus, qu'ils sont fermés, peut-être un peu emmurés, qu'il fallait faire les ghettos, les pogroms, enfin tout ce qui a eu lieu. Il n'y a aucune raison. Et puis, la repentance va aussi vers cette époque lointaine de l'histoire des juifs croyant en Jésus. Et ça, on le perd de vue. La deuxième branche du Y, on la perd de vue. La première, elle est facile à repérer, parce que des juifs, on va dire, encore fermés à Jésus, le judaïsme rabbinique, nous en avons autour de nous, nous avons des communautés juives dans nos villes, à Strasbourg, peut-être à Colmar, en Israël, tout ça. Bon, mais la réalité des juifs croyant en Jésus, on l'a perdu de vue. Donc, on perd de vue que notre repentance vis-à-vis du peuple juif se tourne aussi vers eux. Voilà. Vous pouvez descendre, les enfants, et même retourner à votre place. Vous avez été gentils. Je continue. Alors, ce matin, je voudrais focaliser sur l'aspect des juifs croyant en Jésus. Cette repentance vis-à-vis d'eux. La repentance, ça nous fait penser à ce que disait Jean-Baptiste quand les gens venaient au bord du Jourdain. Que leur disait Jean-Baptiste? Repentez-vous, mais les gens venaient justement pour exprimer une repentance, mais il ajoutait, produisez des fruits dignes de la repentance. Alors ce matin, je ne vais pas parler avec la vigueur de Jean-Baptiste, parce qu'il n'y a aucune raison que je le fasse, parce que je m'adresse à des frères et des sœurs en Christ qui sont passés par un temps de repentance. Et on n'a aucune raison d'aller suspecter leur repentance. N'est-ce pas? Je cite par parenthèse le cas, pour moi c'est vraiment malheureux, un juif messianique qui parle, qui écrit, et qui parlant, évoquant la démarche de repentance de Jean-Paul II lorsqu'il est allé à Jérusalem devant le cotel, mettre le papier, un acte de repentance, parler de soi-disant repentance. Eh bien ça, je trouve que c'est triste et c'est déplorable. Parce que lorsque quelqu'un fait une démarche de repentance, si on vient lui dire ta démarche, elle est fausse, c'est une soi-disant démarche, eh bien la personne va se trouver complètement démunie et on va empêcher la grâce de passer. Donc la repentance, elle est là. Mais après la repentance, après cette démarche, il y a les fruits dignes de la repentance. Vous êtes d'accord? Elle doit s'exprimer d'une manière visible. Elle doit s'exprimer en acte. Alors, que veut dire porter du fruit de la repentance dans ce domaine-là? Je dirais que c'est ceci, que réparation soit faite. Je le redis, la repentance de la partie non-juive de l'Église vis-à-vis de la partie juive de l'Église doit consister en ceci, que réparation soit faite. Alors vous direz, réparation de quoi? Eh bien, dans un instant, nous allons ouvrir la parole de Dieu au livre des Actes et le contexte du passage. Les quelques versets que nous lirons, c'est le suivant. L'Église, parmi les premiers non-juifs à recevoir l'Évangile, il y a une grande partie qui se trouve à Antioche. Donc, il y a des chrétiens, des nouveaux chrétiens à Antioche, des chrétiens non-juifs. Là, ces chrétiens se trouvent en contact de juifs croyant en Jésus et certains juifs croyant en Jésus viennent troubler ces frères en Christ et leur disent, mais dites donc, maintenant que vous rentrez dans l'alliance éternelle de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob, même l'alliance reformatée en Jésus, mais maintenant, vous êtes tenus de vous conformer à toutes les prescriptions de la loi de Moïse. Les prescriptions de la loi de Moïse. Par parenthèse, ce n'est pas Moïse qui a pondu, imaginé la loi, c'est Dieu qui a donné la loi. Mais c'est Moïse qui l'a transmise. Alors ces braves pagano-chrétiens venus de l'extérieur sont troublés. Que devons-nous faire par rapport au Shabbat, par rapport à la circoncision, par rapport aux fêtes? Que devons-nous faire? Finalement, de l'église d'Antioche, on délègue deux personnages, Paul et Barnabas, et on les envoie à Jérusalem retrouver, on va dire, l'église mère, le noyau de départ. Et ils vont discuter avec les piliers de cette église de Jérusalem. Église, là, Jérusalem, j'allais dire, essentiellement, exclusivement, presque juive. À Jérusalem, les leaders se rassemblent, et c'est ce qu'on appelle, par la suite, on appelait ça le premier concile, le concile de Jérusalem, la réunion au sommet des chefs. Alors là, pendant quelques jours, ça discute dur. Qu'est-ce qu'on fait des non-juifs croyant en Jésus? Est-ce qu'ils doivent observer la loi de Moïse? Pas l'observer? Oui, non, ça discute. Et puis finalement, les frères prient, prennent le temps de prier, et voilà qu'à un moment donné, il y a un accord qui se fait dans l'Assemblée. Et alors on va lire, parce qu'il est bon quand même de lire la parole de Dieu. Acte 15. Alors je vais lire à partir du verset 22. La conclusion de ce concile, acte 15, verset 22. « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, donc quelques hommes des Juifs croyant en Jésus, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, ils vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, la Torah, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront oralement les mêmes choses. Et voilà la conclusion du concile de Jérusalem, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Alors, en bref, les attendus du Concile de Jérusalem, c'est quoi? Ce sont les Juifs croyant en Jésus qui disent à leurs frères non-juifs, croyant en Jésus, par rapport aux prescriptions de la loi de Moïse, vous n'êtes pas tenus d'eux. Je le redis, vous n'êtes pas tenus d'eux. On ne leur dit pas, il vous est interdit d'eux. On ne leur dit pas, on vous empêche d'eux. On ne leur dit pas non plus, vous êtes obligés d'eux. Simplement, vous n'êtes pas tenus d'eux. Ça, c'est un discours d'ouverture. Extraordinaire si on réfléchit à ce qu'était la tournure du peuple juif qui, peuple, devant se sanctifier, était quand même replié sur lui-même. cette ouverture, vous n'êtes pas tenu d'eux. Voilà, ça c'est magnifique. Seulement, les années passant, on est arrivé à cette rupture là, que j'évoquais ici, là, les chrétiens non-juifs qui se démarquent du peuple juif, et cette rupture a été officialisée au cours d'un autre concile, une grande réunion des chefs d'église, qui a eu lieu en 325, à Nicée, en Asie mineure. Et, entre autres choses, les attendus de ce concile de Nicée, auquel participaient des leaders d'église à l'époque, tous non-juifs. Aucun responsable juif croyant en Jésus, que des non-juifs. Et les attendus de ce concile, imprégné par ce qu'on appelle la théologie de la substitution, par cette idée de rupture, ça a été ceci. C'est que maintenant, ce sont les chrétiens non-juifs qui disent à leurs frères juifs croyant en Jésus, par rapport aux prescriptions de Moïse, vous êtes tenus de ne pas. Nous vous empêchons. Est-ce que vous voyez, c'est le contre-pied. Alors, c'est là, rappelez la scénette tout à l'heure, le malheureux garçon là au milieu, il ne savait plus où aller. C'est là que, à partir de là, petit à petit, la réalité juive dans l'Église a pratiquement disparu. Voilà. Alors, que faut-il maintenant? Je disais, il faut que réparation soit faite. Eh bien, il faut aujourd'hui que s'élève de nos églises locales, de nos assemblées, de tous nos mouvements chrétiens, que ce soit les grandes dénominations ou que ce soit les églises de maison, il faut que de cette communauté-là, de cet ensemble-là, chrétien non-juif, monte un discours qui, par rapport au discours de Jérusalem, n'en soit pas le contre-pied, mais en soit la réciproque. Que ce soit, comme on dit dans la vie, savoir renvoyer l'ascenseur. Dans la vie, des fois, on a quelqu'un qui vraiment nous a rendu des services, a été chic, a été formidable envers nous, et bien à un moment donné, dès qu'on en a l'occasion, il faut savoir renvoyer l'ascenseur. Et bien il faut qu'il y ait un discours qui soit ce renvoi d'ascenseur. Donc, le discours des juifs vis-à-vis des non-juifs, c'était par rapport à la loi de Moïse, vous n'êtes pas tenus d'eux, et maintenant il faut que le discours soit réciproque, les chrétiens non-juifs s'adressant aux frères juifs en leur disant, vous avez toute liberté d'eux. Non pas on vous oblige, non pas vous êtes tenus d'eux, mais vous avez toute liberté de vivre ce que le Seigneur a donné à Israël, son peuple, et qui n'est pas abrogé. Voilà le discours qui doit monter de l'Église. Seulement, voilà, il y a un problème. C'est que à qui allons-nous adresser ce discours? Hein? On ne peut pas l'adresser à la partie juive réfractaire à Jésus, on ne va pas aller le tenir à la synagogue, ce discours. Alors, à qui? Où sont les juifs croyants en Jésus? Alors, bon, on connaît bien, on a entendu parler des juifs messianiques, mais où sont-ils? Peut-être à Paris, à Bruxelles, en Israël, bien sûr, en Amérique, mais là, j'allais dire, on ne les a pas sous la main. Tiens, viens ici, Johan, viens ici. Tu as de bons yeux, toi. Hein? Tu as de bons yeux. Alors, écoute, tu vois ces messieurs dames là. Hein? Bon. Est-ce que tu vois un Chinois, là? Rapidement. Tu n'en vois pas. Non. Bon. Et est-ce que tu vois un Juif croyant en Jésus, là-dedans? Y a-t-il un Juif croyant en Jésus dans la salle?
Sûrement.
Mais tu le vois?
Non.
Tu ne le vois pas. Alors, je vais te raconter une histoire. Ben oui, je te tiens parce que je suis content de... Voilà, reste là, parce que moi, c'est comme ça. Hein? Voilà, je vais te raconter une histoire, quelque chose que j'ai vécu. Quel âge tu as?
11 ans.
Alors moi, j'étais plus vieux, j'avais 15 ans. Et j'étais en Camargue. En Camargue, c'est près de chez moi, là-bas, dans le sud de la France. C'est une région sauvage dans laquelle il y a des taureaux noirs, des taureaux sauvages et des chevaux blancs.
C'est pas de la plage ?
C'est pas loin de la plage, mais c'est pas la plage. Non, là, il y a pas grand monde là. Et alors, j'étais un jour avec les cavaliers à cheval, les gardiens, c'est un peu comme les cow-boys qui s'occupent des troupeaux de taureaux. Et on était quatre, trois gardiens et moi, on marchait côte à côte, et comme dans le cow-boy, là. Hein. Et on avançait dans une grande lande. Et à un moment donné, on est arrivé devant un marais, marécage, et qui était rempli de roseaux. Une étendue de roseaux. Hein? C'était beau, mais ce qu'il y a eu par la suite a été encore plus beau. Parce qu'à un moment, à l'approche du marais, les gardiens ont commencé de pousser leurs cris de tous les vaqueros, de tous les cow-boys. Hey, 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 hey. Ouais, non pas, hey, 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 hey. C'est comme ça. Et alors, à travers les barreaux des roseaux, on a vu tout d'un coup des petits points un peu sombres à la base des roseaux. Et puis ces points sont devenus des taches un peu plus foncées, puis de grosses taches noires. Et à un moment donné, il s'est fait un clapoutis de vases remués là-dedans, de roseaux brisés, et en même temps que les taches devenaient de plus en plus noires, de plus en plus grosses, toutes ces taches se mettaient en mouvement dans la même direction, d'un mouvement qui montait, et alors, je t'assure, à un moment donné, d'un seul coup, à la surface du marais, dans des explosions de gerbes d'eau, 300 têtes de taureaux et de vaches aux longues cornes qui surgissent de ce marais, comme vomis par le marais, jetés par le marais, d'un seul coup, 300 têtes. Et toutes ces bêtes, après, se retrouvent sur une plurine, sur une bande de langue sèche, où elles se retrouvent. Alors, pourquoi je raconte ça? Tu vas te le demander, hein, cet soir. Eh oui. Eh bien, parce que ce phénomène que j'ai vu, c'était vraiment un des plus beaux spectacles qui m'a été donné de voir. C'était grandiose de voir ça. Mais maintenant, je le comprends. Je comprends qu'il y avait une... Maintenant, je vois qu'il y a un élément prophétique, rétrospectivement. C'est que voit-on aujourd'hui dans, si on y prête attention, dans toutes nos assemblées? J'en ai parlé la dernière fois, mais j'y reviens. C'est que dans toutes nos assemblées, il y a des frères, des sœurs en Christ qui sont là depuis des mois, des années, peut-être quelques semaines, sur les chaises de nos églises, qui partagent notre vie en Christ parfaitement. Et ces personnes, certaines de ces personnes, sont à un moment donné travaillées par le Seigneur, qui est en train de leur faire découvrir ou prendre conscience ou prendre acte d'origine familiale juive qui jusque-là avait été oubliée, cachée, niée, passée sous silence. Pourquoi? Ben, pour mille raisons, surtout les persécutions, la Shoah, peut-être de l'opportunisme aussi. Toujours est-il qu'il y a eu des identités juives qui se sont perdues. Perdues au regard des hommes, mais pas perdues au regard de Dieu. Alors, je disais, dans ce marais, quand les gardiens ont commencé de crier, on a vu des petits points séparés les uns des autres. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous dis un exemple. Dans telle église, il y a un frère, appelons-le Alfred. Et puis Alfred, bon chrétien, bien posé, bien installé. Voilà que le Seigneur le travaille et pour lui montrer que mais sa grand-mère était juive. Et que si sa grand-mère était juive, sa mère aussi, et bien lui aussi, il appartient au peuple juif. Alors le voilà très travaillé. Et il se dit, le Alfred, mais est-ce que je ne perds pas un peu la boule? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est cette poussée spirituelle, cette fièvre? Et il n'ose en parler à personne. Et il ne sait pas que dans une église à 30 km de là, il y a une sœur. Alors je vante le nom, appelons-la Brigitte. Je ne sais pas s'il y a des Brigitte dans la salle. Et voilà que cette dame Brigitte, qui est d'un certain âge, tout d'un coup se met à être travaillée aussi par le Seigneur sur des origines familiales juives. Et la sœur, elle est ancrée en Christ, elle ne dérape pas. Mais alors là, elle dit, mais qu'est-ce que c'est cette fièvre qui me prend? À qui vais-je en parler? Et elle n'ose pas aller en parler à monsieur le pasteur, parce que monsieur le pasteur va lui dire, mais maintenant en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, tu délires, c'est un délire mystique, ça ne m'étonne pas de toi, tu lèves les mains pour louer le Seigneur, enfin voilà. Alors elle n'ose en parler à personne. Et puis là-bas plus loin, il y a un autre frère qui est dans le même cas, puis un autre là-bas. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, on voit un mouvement convergent. Et c'est là qu'on se rend compte que ce phénomène n'est pas une mode. Parce qu'une mode, tout le monde veut faire comme tout le monde. Mais là, quand on voit que le frère Alfred, tout seul, est travaillé, et qu'il ignore totalement que la sœur Brigitte est travaillée de la même façon, et que la Brigitte ignore que la sœur Caroline, là-bas, est travaillée de la même façon, on se rend compte qu'il y a un travail du Saint-Esprit. Et ce travail du Saint-Esprit, subtil, il correspond à ce que nous dit le prophète Ésaïe. Alors, je vous invite à prendre, si vous avez vos Bibles, Ésaïe 49. Alors, dans ce passage, Dieu fait parler le peuple juif, appelé ici Sion ou Jérusalem, à la manière de Jean de la Fontaine faisant parler le corbeau ou le renard. Et voici ce qui arrive à Sion. À Sion, alors il faut entendre le peuple juif, là, tel qu'il se présente peut-être aujourd'hui. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Pardon, verset 14, Ésaïe 49, verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Et puis maintenant, il parle des ennemis. Ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous tes fils, hein, pas tes ennemis. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées, désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient se lorgneront. C'est-à-dire que pendant que les ennemis s'en vont, les enfants arrivent. Ces fils dont tu fus privé répéteront à tes oreilles, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre les bras. Etc., etc. Donc c'est le peuple juif, dans ce qui en reste, qui tout d'un coup voit surgir cette réalité qui est fondue dans les nations, fondue dans les églises, et qui dit, mais cela, d'où me viennent? D'où me sortent-ils, cela? Eh bien, ils sortent d'où? Des tombeaux. Et c'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 37. La vision des ossements desséchés, on ne va pas toute la relire, vous la connaissez. Mais il est dit au verset 11, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je vous ferai sortir de vos tombeaux. Et dans l'Église, vous rappelez, dans l'Église telle qu'on l'a vue au début, l'Église qui est cet homme nouveau fait du juif et de non-juif, eh bien, la réalité juive est comme morte. Elle est comme mise au tombeau. Mais maintenant, cette réalité juive, le Seigneur est en train de la faire renaître. Viens ici, Johan. Tout à l'heure, je t'ai demandé, y a-t-il des juifs dans la salle, ici, croyant en Jésus? Ben, tu m'as dit non, hein? Tu as bien fait. Mais je vais te souffler quelque chose à l'oreille. Moi, j'en connais déjà quatre dans cette assemblée. Alors, je ne vais pas les nommer, hein? Mais j'en connais quatre, tu vois? Eh oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, cette réalité juive naissante dans l'Église, elle est naissante. C'est une renaissance, c'est une résurrection. Et elle est un peu comme les cigales dans mon pays du Midi. Quand au début de fin juin, les cigales sortent de leur chrysalide dans laquelle elles étaient. Et pendant un moment, les cigales sont toutes fragiles, toutes molles. On pourrait les écraser entre deux doigts. Je veux dire par là que la réalité juive qui renaît dans nos églises, c'est une réalité qui, pour l'instant, elle est toute fragile. Vraiment très, très, très fragile. Alors, de quoi a-t-elle besoin, cette réalité juive qui renaît? De quoi elle a besoin? Eh bien, elle a besoin d'un nid. Elle a besoin d'un berceau. Elle a besoin d'un lieu de sécurité avant de trouver ses forces. Elle a besoin d'un lieu de protection. Alors c'est à ça que je veux en venir. Je pense à l'appel du Seigneur pour cette église Josué, mais pour d'autres églises aussi de la francophonie, de nos pays de France, de Suisse, de Belgique. Quelle assemblée de chrétiens? Quelle église, quelle dénomination, quelle cellule de prière, quel groupe de maison acceptera de jouer le jeu, acceptera d'être, pour cette réalité juive à peine naissante, ce berceau, ce nid douillet, ce lieu de protection? Alors, évidemment, vous direz, que faut-il faire? Eh bien, je dirais que d'abord, se départir d'un discours qu'on a un peu sur les lèvres ou dans la tête, c'est que lorsque vous avez dans votre assemblée un frère ou une sœur qui vous dit « Moi, je suis travaillé parce que j'ai des origines familiales juives », ne pas aller lui balancer à la figure « C'est une mode ». Oui, peut-être certains vont s'immiscer là-dedans, je ne sais pas. Pas lui dire « c'est une mode », pas lui dire « tu délires », pas lui dire « mais d'où ça sort ? Tout d'un coup, tu étais avec nous, là, tu fonctionnais, et puis quel est ce truc qui t'arrive ? Est-ce que c'est un snobisme spirituel ?» Ne pas lui dire tout ça, mais écoutez avec les oreilles ce que le Seigneur est en train de faire. Parce que si le frère ou la sœur vous dit ça, ça va peut-être vous déstabiliser. On n'est pas habitué à ce discours. Quelqu'un qui est là depuis des années, puis il vous dit « mais moi j'ai des origines juives, je suis travaillé ». Pour celui qui entend, c'est déstabilisant. Mais sachez que pour la personne qui le vit, c'est déstabilisant aussi. Pour un temps. Pour un temps. Je le sais, j'y suis passé. Et c'est déstabilisant pour un temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur vous donne des repères et là, c'est mieux qu'avant. Et puis, écouter et comprendre. Et puis aussi, être prêt à jouer le jeu et à cheminer avec la personne. L'aider dans son cheminement. Alors, que veut dire l'aider dans son cheminement? Eh bien, Paul dit, je me suis fait grec avec les grecs, je me suis fait juif avec les juifs. Eh bien, se faire un petit peu juif avec les juifs. Voilà, ça ne tuera personne, puisque les juifs croyant en Jésus, dans la chrétienté non juive, ont été pendant longtemps, ils ont été grecs avec les grecs. Pendant des siècles, ils ont joué ce jeu. Alors, si nous, aujourd'hui, nous chrétiens grecs, on va dire, hein, non juifs, nous sommes un peu juifs avec les juifs, ça ne va pas nous tuer, ça ne changera rien à notre salut personnel en Jésus-Christ, ni à l'onction du Saint-Esprit, si ce n'est de la rendre peut-être plus forte. Alors, aider les personnes à cheminer, je vois tout de suite des contradicteurs, ils ne sont pas ici, mais ils existent, ils vont dire, oh là là, vous judaïsez. Alors, je vais dire, écoutez bien, il faut faire la différence entre judaïser et hébraïser. Bon, alors là, quand j'ai dit ça, je suis passé pour savant et vous n'avez rien compris. Bon, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais expliquer, c'est simple. Judaïser, c'est un peu jouer aux juifs. Voilà. Judaïser, c'est imiter le judaïsme rabbinique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Voilà, c'est vouloir reproduire, refaire tout ce que fait le judaïsme, on va dire, rabbinique. Hébraïser, c'est revenir davantage aux sources bibliques. Alors, ça, c'est difficile. Parce que, là, je parle maintenant, moi, en tant que juif croyant en Jésus au milieu de mes frères. C'est difficile parce que pour nous, juifs venus du désert de l'oubli, sans aucune culture juive, nous sommes juifs par les racines familiales, mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas été élevés. Alors, qu'est-ce qui nous reste à observer? La seule vie juive que nous puissions observer aujourd'hui, c'est la vie juive du judaïsme rabbinique, qui a de multiples facettes, mais le judaïsme rabbinique. Alors, hébraïser, c'est essayer de retrouver les choses à l'origine. C'est de plonger les regards dans le judaïsme rabbinique, parce que c'est la seule réalité que nous puissions observer, et essayer de faire le tri. Là-dedans, comme dit Paul, pour discerner, rejeter ce qui n'est pas valable et garder ce qui est bon. Alors, dans le judaïsme rabbinique aujourd'hui, qui est façonné depuis des siècles, il y a des choses à distinguer. Il y a des éléments là-dedans qui sont vraiment bibliques. Vraiment bibliques. Alors, ceux-là, est-ce qu'il faut les rejeter ou les garder? Il faut les garder. Bon. Et puis, il y a ensuite des éléments qui ont été amenés par des siècles et des siècles de tradition. Parce que les rabbins, ils font comme nos ministres. Au cours des siècles, chaque rabbin veut laisser un peu son empreinte. Chaque ministre veut faire sa réforme, etc. Hein? C'est humain. Alors, le judaïsme rabbinique regorge de traditions. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Garder ou rejeter? Hein? On rejette. Ben moi, je suis plus lancé. Tout dépend. Effectivement, dans les traditions rajoutées, il y en a certaines qui ont été élaborées, il faut bien le dire, en réaction contre Jésus. Contre l'authentique message de Jésus que les pharisiens, la plupart des pharisiens ont rejeté. Et puis, en réaction aussi, par rapport, on va dire, à la chrétienté qui a malmené les Juifs pendant des siècles. Alors, ça a provoqué des réactions contre Jésus. Alors, toutes les traditions élaborées à l'encontre de Jésus, il est évident que nous ne devons pas les garder. Voilà. Mais il y a aussi des traditions qui sont à garder parce qu'elles ne sont pas mauvaises. Est-ce que ça nous arrive à nous? Ben, écoutez, tout à l'heure, on a chanté des cantiques. Quand on regarde les paroles des cantiques, est-ce que ces cantiques étaient bibliques? Mais la plupart des cantiques n'étaient pas bibliques dans ce sens qu'on ne les trouvait pas telles quelles dans la Bible. Mais ces cantiques étaient quand même d'émanation biblique. Ils étaient en accord avec la Bible. Et ils sortaient de la Bible. Vous comprenez? Et ces cantiques, on les chante fréquemment. On a des traditions. Voilà. Est-ce que de mettre les bannières là, les drapeaux, est-ce que nous trouvons ça directement marqué dans la Bible, il y aura un drapeau de... Voilà. Non. Mais l'idée est tout à fait dans l'esprit de la Bible. Donc il y a des traditions à garder. Alors je vais quand même cheminer par là, vers la conclusion. Donc je disais que nous sommes invités, nous, nos églises, par rapport à la réalité juive naissante au milieu de nous, être des lieux de protection. Parce que je dirais que nous, je parle là en tant que juifs croyants en Jésus, nous avons besoin, frères et sœurs non-juifs, nous avons besoin de vous. Parce que le Seigneur nous travaille de l'intérieur pour nous faire prendre conscience de notre appartenance au peuple juif. Et ça, ça vient d'en haut. Sur le plan horizontal, de quoi aurons-nous envie? Nous aurons envie, bien sûr, c'est humain, d'une reconnaissance, d'être reconnus comme juifs. Alors, où allons-nous trouver cette reconnaissance? Nous allons nous porter vers la synagogue, vers le judaïsme rabbinique. Mais là, on va nous demander de renoncer à notre foi en Jésus. Donc, il y a un danger pour nous. Alors que, en fait, qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est reconstituer une église faite de juifs et de non-juifs. Donc, frères et sœurs non-juifs, nous avons besoin de vous, d'abord pour éviter le négatif, qu'on ne parte pas dans le déséquilibre. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne parte pas à la dérive. Ce danger, il existe. Et puis, d'une manière positive, nous avons besoin de vous, comme vous, vous avez besoin de nous, pour rétablir l'Église sur ses fondements. Alors, vous me direz, tout à l'heure j'ai dit, mais ici, j'ai dit aux petits, là, ici il y a 4 personnes juives dans la salle, vous direz, mais attends, faire tout ce travail pour, excusez-moi l'expression, 4 pelés et un tendu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, on ne va pas déranger toute une Église pour ça. Eh bien, je dirais que si, parce que ce que nous vivons dans cet espace ici, limité, ça a une portée dans le monde spirituel, ça tout le monde en est convaincu. À Strasbourg, nous avons un fils, un de nos fils qui est illustrateur. Et alors il ne dessine plus maintenant sur papier. Il a devant lui son écran d'ordinateur, il a le clavier et puis il a devant lui une plaque grise qui reste toujours grise, ça s'appelle la palette graphique. Il a un stylo qui n'écrit rien du tout, qui n'a pas d'encre, mais il fait des tracés, il fait des arabesques sur sa plaque graphique. Quand il passe son crayon, on ne voit rien du tout, mais sur l'écran, les dessins qu'il fait s'affichent. Et nous, nous sommes un peu la palette graphique. Et une assemblée comme ici, c'est une palette graphique. L'ordinateur, c'est ce qui se passe dans les lieux célestes. Mais mon fils qui voit sur l'ordinateur, c'est quelque temps après ce qui se voit en vente dans toutes les librairies, dans les FNAC, dans toutes les librairies, ce qui était sur l'ordinateur se trouve, voilà. Donc, ce que nous vivons, même pour 4 misérables et humbles personnes au milieu de nous, c'est précieux parce que ça a une portée non seulement dans les lieux célestes, mais ça a une portée, j'allais dire, internationale. Voilà. Et tout à l'heure, on a parlé du réveil. C'est Sandra, tu as parlé du réveil des nations. Eh bien, je crois que le réveil des nations, le réveil, il ne viendra que lorsque l'Église sera prête à être refondée sur ses réelles bases. Une église de réalité juive et non juive. Alors, je finirai par cette phrase. Je voudrais interpeller l'église Josué. Et quand je dis interpeller l'église de Josué, je n'interpelle pas l'église dans sa globalité, je n'interpelle pas le conseil de l'église, mais j'interpelle chacun de nous et que nous soyons de vieux chrétiens, des chrétiens commençants, des gens affermis dans la foi, des gens faibles dans la foi, des gens venant ici de façon régulière ou des gens un peu de passage de temps en temps, que chacun se soit interpellé. Pendant des siècles, nos églises, par rapport à la réalité juive, ont été malheureusement des tombeaux, des pierres tombales. Est-ce que nous acceptons aujourd'hui une réelle conversion qui nous fera transformer de tombeau en berceau? Voilà. Amen.